Je vous présente notre nouvel intervenant. Monsieur Méry a été longtemps professeur de philosophie en lycée et aussi au séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence. Alors, il continue d'être professeur de philosophie au séminaire Saint-Luc, mais d'autres tâches sont venues pour lui, celles notamment de directeur d'établissement. Il est directeur de Notre-Dame de la Jeunesse, donc de l'œuvre de Timon David à Marseille. Ah ! Merci. Vous voyez qu'il y a déjà un a priori de sympathie de l'auditoire qui vous est gagné. Alors je rajoute la sympathie entre directeurs, on se comprend, donc vous avez toute la mienne. Alors nous sommes très heureux de vous écouter pour réfléchir avec vous sur les enjeux anthropologiques de l'Internet et des réseaux sociaux. Merci.
Bien, alors mon propos est donc d'essayer de savoir les enjeux anthropologiques d'Internet et des réseaux sociaux, c'est-à-dire quels effets Internet, hein, les réseaux sociaux comme conséquence, peuvent avoir ou ont-ils sur la condition humaine et sur la manière dont l'homme aujourd'hui s'hominise. Voilà. Il naît homme, mais il le devient aussi hein, au travers de la culture dans laquelle il est né. Alors, avant, en prévention, évidemment, je voudrais dire que je ne suis pas un spécialiste de la question d'Internet. Je suis un homme nourri d'une culture philosophique qui entreprend de penser un nouveau monde qui advient depuis maintenant, disons, une vingtaine d'années. Et sur un sujet donc très difficile à penser, par extrêmement mouvant, qui évolue très vite, comme on va le voir, et rend la pensée très délicate, parce qu'on a toujours l'impression que la pensée va arrêter quelque chose qui est en pur devenir, et on s'expose toujours au risque de se tromper. J'avais fait une conférence du même type il y a 5-6 ans. En la relisant, je me suis rendu compte qu'elle était frappée sur pas mal de points d'obsolescence, et pourtant j'avais essayé de trouver des invariants qui me semblait être solide et permettre de dire, oui, là, il y a une influence réelle et déterminante sur la condition humaine. Donc, voilà. Donc, ce que je vais dire est à prendre avec prudence et est à réfléchir et pourquoi pas à mettre sur un blog et proposer au débat. Hein. Mais en aucun cas de penser que ce serait une vérité, même dans mon esprit, intangible. Mon propos, en fait, se divisera en quatre parties. La première partie, je parlerai très rapidement d'Internet, de son histoire et comment il est constitué, ce que c'est. Ma deuxième partie portera sur les enjeux et les défis qu'il impose à l'esprit humain, parce qu'évidemment, c'est sur notre intelligence, hein, sur notre esprit que Internet a le plus d'influence. Ensuite, je parlerai des conséquences d'Internet sur une nouvelle dimension, c'est la sphère sociale, les réseaux sociaux, donc une nouvelle dimension de la socialité qui est apparue. Et enfin, la partie la plus délicate, j'essaierai de mettre en perspective de façon très générale sur l'évolution de l'humanité, j'essaierai de remonter à peut-être 4 ou 5 000 ans, pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas remonter à 5000 ans, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais de voir qu'est-ce qui se passe pour essayer de comprendre dans cette mise en perspective les révolutions que l'on peut attendre et qui seront certainement très, très, très conséquentes. Hein, je mets au défi bien malin celui qui pourra dire les conséquences politiques, religieuses que va avoir Internet sur la planète. Alors, Internet a à peu près 42 ans, est né en 69. C'est une invention, bon, vous le savez, de quelques informaticiens, puis qui a été reprise par l'armée américaine et qui offrait comme intérêt d'être un réseau de communication qu'on ne puisse pas détruire hein, par son système de maillage et de toile et qui s'est étendu très vite à partir des années 80 avec le World Wide Web. hein, et les concepts de liens hypertextes qui permettent de passer de page en page. Bon, je vais assez vite, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Et tout ça pour en arriver finalement dans les années 90, où Internet, là, pour le coup, commence à prendre une véritable importance, hein, et notamment en France. Quelques chiffres, hein, en 2001, 10% des foyers sont connectés. Son évolution est très rapide, non pas en 2001, avant 2001, 10%. À partir de 2001, on est à 32%. En 2006, on est à 50% des foyers. Et donc aujourd'hui, on est, je crois, autour de 80% de foyers qui ont la connexion Internet. 95% des 13-24 ans utilisent régulièrement Internet. Donc c'est devenu, Internet est devenu véritablement notre quotidien. Une véritable... une progression extrêmement rapide. Alors, quelles sont les caractéristiques d'Internet? Bon, c'est, Internet, c'est des réseaux, ce sont des routes d'information. Hein, c'est guère plus compliqué que ça. Hein, ce sont des tuyaux dans lesquels passent les informations. Il a comme avantage d'être sans centre. Il est acentré, dit-on. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des routes qui connectent deux ordinateurs ou des serveurs et entre lesquels les informations passent. La route en elle-même ne comporte rien. Il n'y a pas de complexité, ce sont des tuyaux, et ce qui est complexe, c'est l'ordinateur, les deux ordinateurs qui sont à chaque extrémité de ces routes. Bon, c'est important parce que de ce fait-là, c'est une information, vous voyez, qui, contrairement à auparavant, où l'information partait d'un centre, qui était la radio, qui était la télévision, et qui était diffusée à une masse, aujourd'hui, on a exactement le même pouvoir, mais qui vient d'individus vers une masse. Enfin, c'est presque vers une masse ou vers d'autres individus. Donc finalement, Internet, on pourrait dire, c'est la capacité pour chacun d'entre nous d'avoir une radio ou une chaîne de télévision à soi-même. La possibilité pour chacun d'entre nous d'accéder à une publicisation de nos informations, de nos pensées, de nos photos, de nos musiques, hein, les rendre publiques de façon individuelle. Je vous rappelle qu'auparavant, si on est au, je sais pas, au 18e, 19e siècle, rendre public des pensées, ça supposait... l'achat d'une imprimerie, de papier, la diffusion des livres, ou alors au 19e, disons, des journaux, publiciser une pensée était véritablement complexe. Aujourd'hui, c'est un clic. J'écris, je tape, j'envoie. Et c'est public. On est tous, on devient tous potentiellement des journalistes, on devient tous potentiellement, évidemment, des écrivains qui hier avaient et détenaient la parole publique. C'est pourquoi, d'ailleurs, on y a vu une démocratisation réelle. Certains disent, d'ailleurs, que depuis les turiféraires, hein, ceux qui encensent Internet, disent que Internet, c'est l'article 11 des droits de l'homme, je vous le relis, « La libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Voilà. Eh bien, cet article 11, qui est dans les droits de l'homme, globalement, il existe à titre de droit, mais en réalité, très peu de gens pouvaient véritablement l'exercer, tellement il était complexe de pouvoir publier son opinion de façon massive. Aujourd'hui, avec Internet, il est vrai que cet article 11 n'est plus, je prends une petite distinction marxiste, c'est plus un droit nominal, enfin, mais ça devient un droit réel. Et effectif. Ensuite, c'est un réseau très résistant. Si on le coupe d'un côté, de toute façon, il passe par l'autre côté. Donc, Internet est pratiquement... On ne peut pas casser Internet. Si demain, il n'y a plus Google, Internet fonctionnera de la même manière. Il n'y a pas de... Ça sera... Donc, Internet est comment dire, un réseau qu'on ne peut pas biffer, qu'on ne peut pas détruire. Ensuite, il a un intérêt immense, c'est ce que je disais, une diffusion globale et surtout gratuite. C'est ce qui fait son succès. Et enfin, il est incontrôlable. Et ça, c'est pas inintéressant. Il est incontrôlable parce qu'il est transfrontalier. Par conséquent, il n'est pas soumis aux juridictions nationales, alors qu'il essaye de censurer d'une certaine manière. Mais il y a toujours un moyen de pouvoir dépasser la censure. Les dissidents chinois arrivent toujours à publier un certain nombre de communications sur des sites américains ou sur des sites ailleurs. Les Iraniens aussi. Sans pour autant qu'on puisse arriver à savoir d'où vient l'information et arriver à savoir et localiser ce dissident, même par les adresses IP ou des choses comme ça. Donc, on a un espace qui est énorme, qui vient de s'ouvrir, chacun d'entre nous a la possibilité, gratuitement, de publiciser sa pensée, ses humeurs, sa photo, ce qu'il veut, hein, devenir célèbre et populaire de façon assez simple et assez économique. Pour la modique somme de, je sais pas, 29,99 € pour Free, 32 € pour Manadou, enfin je ne sais pas, de façon finalement assez, assez modique. Alors, voilà en gros les caractéristiques d'Internet. Ensuite, je voulais essayer de faire un peu une typologie de l'internaute. Alors, typologie d'internaute, je vais faire une typologie qui est celle d'Ipsos, que je vais dire assez rapidement. Aujourd'hui, on a classé, Ipsos classe en 5 parties les internautes, 5 types d'activités. Les basiques, c'est pas très sympa pour eux. Je ne vais pas le décrire parce que les gens qui s'y reconnaîtraient se trouveraient insultés, mais bon, voilà, il y a des basiques, vous irez voir vous-même. Mais ils sont pas si, enfin, globalement, ils ont une mentalité d'acheteur sur Internet. Voilà, ils vont acheter, ils ont un usage pratiquement purement commercial et quelquefois de prendre quelques recettes de cuisine quand ils sont en panne d'intuition ou d'idées. Deuxièmement, les compagnons. Alors les compagnons, ils sont jeunes, ils ont entre 15 et 24 ans, ils sont plutôt étudiants, ils apprécient les sites communautaires et ludiques, plutôt des hommes, paraît-il. Ils aiment flâner sur le web, mais ils achètent rarement en ligne. Les sweet homes, alors ça c'est la mère au foyer, qui elle flâne pour faire ses courses sur Internet. Les traders, alors eux c'est plus économique, et donc ils ont un usage d'Internet pratiquement boursier. Et enfin, donc Monsieur de Plainquette en fait partie, c'est ce qu'on appelle les experts, qui sont soit des connaisseurs informatiques, en tous les cas ce sont des blogueurs, qui exposent des débats argumentés et qui lancent des débats sur Internet, qui font d'autres activités. Ils vont peut-être acheter des billets de train sur ncf.com, tout ça, mais c'est pas l'activité principale. Alors si je décris ces différents types d'internautes, bon après il y a tous ceux qui utilisent la correspondance, mais ça c'est pas véritablement le net. On utilise les tuyaux, mais c'est pas véritablement le net qui intéresse ici. Alors si je faisais cette typologie, c'est parce que j'aimerais en fait démontrer, c'est un des objectifs que je me fixe, une espèce d'idéal type de l'internaute, ce que je pense que nous devrions devenir. Alors, ça va être assez facile, puisque, en fait, M. de Plainquette a décrit, juste avant, exactement l'idéal type vers lequel nous devrions tous tendre. C'est pas tout simplement par pure, amabilité que je dis ça, mais c'est véritablement le trajet vers lequel nous devrions aller. C'est-à-dire qu'on voit que les internautes commencent généralement, première étape, par être des acheteurs. Ils achètent sur Internet, c'est bien commode, plutôt que d'aller à la gare, d'aller acheter son ticket sur SNCF.com. Ensuite, il y a le passage, souvent, que tout le monde n'a pas fait, qui est le passage au social. Alors le social, ben, c'est celui qui va sur les réseaux sociaux, voilà, principalement, et qui échange énormément sur, on le reverra un peu plus loin, un peu plus tard, sur sa vie privée. Et qui fait des réseaux d'amis, partage des photos, partage de la musique, partage des vidéos. Ensuite, il y a une autre étape que certains franchissent, qui est celle du lecteur. C'est celui qui se sert d'Internet un peu comme d'une bibliothèque et qui va chercher des informations sur un sujet. Parce qu'Internet offre quelque chose d'extraordinaire, c'est l'expertise sur certains sujets. On peut avoir l'information d'un expert quand on se pose une question. Moi, je ne suis pas historien. Quand je vais sur Internet pour avoir une confirmation d'une idée ou d'un vague souvenir de mes cours d'histoire, ben je tombe sur des sites sur des sites qui me permettent de préciser de façon très 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 sérieuse l'information que je recherchais. Pareil dans la cuisine, quand je cherche une recette, je peux tomber sur un expert qui va me décrire exactement la recette, plus quelquefois des professionnels qui disent la petite touche qu'il faut rajouter. Enfin, quel que soit le domaine d'expertise, Internet offre un expert proche de chez vous, ce qui est énorme. Enfin, avant, c'était quand même assez compliqué d'avoir ces informations-là. Aujourd'hui, c'est immédiat. Enfin, ce vers lequel nous devrions tous tendre, c'est le commentateur. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas seulement de lire les informations ou d'y réagir sur Figaro.com ou Le Monde ou je ne sais quel journal, mais qui en plus exprime une opinion, pas une humeur, une opinion argumentée et rentre en débat. Et ça, on voit sur un nombre très important de blogs, une part des internautes, qui n'est pas très nombreuse, et qui, finalement, lance un véritable débat. Les règles sont celles de la rationalité, de la politesse, un certain nombre de choses, et qui permettent véritablement un échange, où bien souvent, on voit ces blogueurs, ou on voit ces internautes, reconnaître s'ils se sont trompés, essayer de prouver, avec le plus d'arguments possible, que leur opinion vaut plus que celle à laquelle ils s'opposent. Et on voit ici pratiquement une forme de débat telle qu'elle existait à l'université au Moyen-Âge, finalement, et qui est à la portée de tous. Et tous, nous avons, sur un domaine précis, des idées intelligentes et argumentées, à nous de trouver les sites sur lesquels nous pouvons échanger, peut-être approfondir sur ce domaine de prédilection. Alors, évidemment, l'enjeu, de toute façon, je n'ai pas besoin de le détailler, l'enjeu pour les chrétiens, il est là. Il est là. C'était précisément ces blogs missionnaires, c'est ceux qui viennent redonner une perspective chrétienne au cœur même des discussions, hein, et qui font avancer le débat. On le voit sur les questions d'euthanasie. Moi, je suis un peu sur Twitter et on voit sur l'euthanasie énormément de tweets. Alors, le tweet, c'est très difficile, c'est ce qu'on appelle du micro-blogging, hein, c'est-à-dire on échange des pensées extrêmement ramassées. Alors, c'est en France, parce qu'en France, il y a 0,02% de gens qui sont sur Twitter. Et les échanges sont des échanges très précis et très ciblés. Et quand même, en France, en tous les cas, aujourd'hui, encore très rationnels. On n'est pas dans l'humeur, on est dans l'échange de raison. Je vois sur des sites, il y a pas mal de chrétiens d'ailleurs qui y sont. Des séminaristes à Aix tweetent pas mal. C'est eux d'ailleurs qui m'ont incité à les tweeter. Alors, et en plus, ils renvoient bien souvent sur des blogs pour prolonger le débat, et ça, c'est assez intéressant. Il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, donc, ce que je viens de décrire, là, c'est l'évolution assez naturelle, mais qu'il faut poursuivre. Hein, chacun, comme internaute, peut se reconnaître à une étape ou une autre. Et je crois que c'est vraiment la logique même vers laquelle il faut tendre, parce que au départ, Internet, c'était ça. C'était de l'échange, notamment utilisé beaucoup par les scientifiques. Et on pourrait dire s'il y a quelque chose d'invariant dans Internet, c'est la qualité de ce débat argumenté et rationnel que permet ces réseaux de communication. Donc je pense que c'est sans doute ce que Internet peut apporter de meilleur, mais on verra que ça ne va pas être sans conséquences. On l'a vu sur Hadopi notamment, les discussions argumentées sur la loi Hadopi sur les blogs faisait que beaucoup de députés ou de politiques étaient quand même très sérieusement tensés par des argumentations très très solides qui faisaient que ça devenait plus difficile de justifier cette loi, hein, puisque évidemment un nombre très important de blogueurs y étaient opposés, s'ils voyaient une atteinte à la liberté. Voilà pour ce qui est un peu ce panneau général. Deuxième partie, les enjeux et les défis pour l'esprit humain. Évidemment, ce nouvel outil très particulier entraîne une modification des processus cognitifs et de la manière d'apprendre et de connaître. J'y suis d'autant plus vigilant étant directeur d'école, la question de ce qu'on appelle l'introduction des TIS, hein, nouvelle technologie de l'information et de la communication à l'intérieur des écoles, est quelque chose de très préoccupant. Donc, j'y réfléchis beaucoup pour savoir comment désormais faire des cours et éduquer les jeunes avec ce nouveau moyen qui remplace, c'est clair, les manuels et les livres d'hier. Il ne s'agit pas de les mettre au feu, il s'agit qu'ils les remplacent clairement. Aujourd'hui, on est encore dans toutes les écoles, la plupart des écoles, avec des manuels. Et on n'a pas du tout encore intégré, alors que les jeunes y vont très largement, intégrer l'outil Internet à l'intérieur des cours. Donc, et de façon un petit peu, un petit peu provocatrice, je vais vous lire un texte que vous connaissez peut-être, qui est un texte de Platon, c'est dans le Phèdre, ça s'appelle « L'invention de l'écriture ». Alors, je vous lis le texte. C'est donc Teut, le dieu qui inventa l'écriture, se voit répondre par le roi d'Égypte. Autre est l'homme qui se montre capable d'inventer un art, celui d'écrire. Autre est celui qui peut discerner la part de dommage et celle d'avantage qu'il procure à ses utilisateurs. Intéressant. Ce n'est pas parce que vous êtes un spécialiste d'informatique que vous êtes à même de pouvoir juger ce qu'il en est et les avantages ou les dommages. Donc, le roi d'Égypte a ainsi posé son autorité. Il répond, il continue. Père du caractère de l'écriture, tu es en train, par complaisance, de leur attribuer un pouvoir contraire à celui qu'ils ont, conduisant ceux qui les connaîtront à négliger l'exercice de leur mémoire. C'est l'oubli qu'ils introduiront dans leur âme. Voilà. On est à l'époque de Platon. Platon, c'est celui qui écrit alors que Socrate n'écrivait pas. Donc Platon est très concerné par ce qui se passe là. Socrate n'écrivait pas. Alors, leur mémoire est l'oubli qu'ils introduiront dans leurs âmes. C'est-à-dire une diminution véritablement des capacités. On atrophie la mémoire et on atrophie l'âme à cause de l'écriture. Continuons. Faisant confiance à l'écrit, c'est du dehors en recourant à des signes étrangers et non du dedans par les ressources propres qu'ils se ressouviendront. Ah oui, puisque c'est dans le livre que saura désormais le savoir. Ce n'est donc pas pour la mémoire, mais pour le ressouvenir que tu as trouvé un médicament. Et c'est l'apparence et non la réalité du savoir que tu procures à tes disciples, car tu leur permets de devenir érudits sans être instruits. Ils paraîtront pleins de savoir, alors qu'en réalité, ils seront le plus souvent ignorants et d'un commerce insupportable, car ils seront devenus de faux savants. Bon. Nous, on est vraiment une civilisation de l'écrit. Quand vous voyez la condamnation de l'écriture, alors qu'on considère que la lecture est quelque chose de très important, là, on... clairement, quand on passe à la civilisation de l'écrit, on a l'impression de fabriquer des imbéciles totalement évidés de tout savoir et qui ont en permanence besoin de la béquille du livre pour donner quelques signes, quelques lueurs d'intelligence. Ces critiques-là, on entend exactement les mêmes sur Internet. Hein. De dire que c'est la mémoire externalisée, qu'ils vont tous devenir totalement imbéciles à cause de cet outil. Donc ça nous permet peut-être d'avoir un petit peu plus de distance par rapport à quelques réflexes ou instincts technophobes qu'on pourrait avoir à l'égard d'Internet. Alors, tout ça pour montrer que, voilà, on n'a pas d'emblée à dire, enfin on ne peut pas à mon avis dire d'emblée que Internet va entraîner une dégradation profonde de l'état intellectuel des jeunes, de leur mémoire ou de leur capacité à penser. Je serais même enclin de penser exactement le contraire. Il y a vraiment plutôt quelque chose de très positif à en tirer. Alors, après ce préambule, quelles sont les différentes difficultés que pose Internet? Et ça, c'est à l'éducation et à l'éducateur et à l'enseignant de les régler. La première difficulté donc que ça va poser, c'est que c'est une concentration virtuelle. Internet est une concentration virtuelle de savoir, une gigantesque bibliothèque virtuelle, si vous voulez. Et ce savoir est un tas, assez un tas, oui, qu'on classifie et qui se reclassifie selon la requête que l'on écrit sur Google ou sur je ne sais quel site de recherche. Alors, cette difficulté dans la recherche, parce que ça c'est un des aspects importants, parce que si on veut utiliser Internet, il faut savoir rechercher le savoir et savoir le critiquer, eh bien il faut connaître les fourches codines par lesquelles Google fait passer les premières lignes. Vous savez que Google classe en première ligne les réponses selon que vous avez payé, si vous êtes une entreprise de commerce, ou selon le nombre de clics dont a bénéficié tel site. Expliquant que le savoir, par conséquent, est démocratique, puisque plus de personnes ont voté pour tel site, c'est-à-dire que ce site est meilleur que les autres. Bon, c'est un critère assez, assez curieux sur la véracité d'un savoir que de savoir le nombre de clics qu'il y a dessus. Mais bon, voilà, toujours est-il que c'est un des moyens, en tous les cas pour contourner Google, de savoir la manière dont les choses sont classées. Enfin, quand vous voyez qu'il y a 1 million de réponses sur certaines requêtes, c'est assez compliqué de faire le tri. Donc, on peut savoir qu'il y a des sites qui sont plutôt sérieux, si vous êtes dans des sites universitaires, des sites officiels, ou alors sur certains blogs reconnus, on peut avoir des réponses à nos questions plus précises. Mais ça, c'est le travail des professeurs que d'arriver, en utilisant Internet en cours, d'apprendre aux élèves, parce que l'élève apprendra en imitant, en voyant comment le professeur fait le tri dans l'ensemble des connaissances, de ce qui paraît rationnel ou de ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, le net est aussi est le lieu, d'ailleurs c'est ce qui avait été dit, de la confusion entre le privé et le public. Donc un des autres dommages, donc ça, là c'était plutôt sur la question de la recherche, là maintenant c'est sur la question de la confusion privé-public. Je crois que ce que les gens n'ont pas compris sur Internet, c'est que Internet, c'est publier. Quand je vais sur Internet et que j'écris, je publie. Au même titre que si je prenais un journal, j'écrivais, je l'imprime, et je le diffuse. Donc, il faut bien comprendre que quel que soit le contenu, je le publie. Et par conséquent, j'ai la responsabilité, évidemment, c'est pas, j'ai une responsabilité vis-à-vis de ce que je publie. Donc, aujourd'hui, quand on publie quelque chose, que ce soit un journal, que ce soit dans un blog, il faut accéder à une certaine universalité pour que les gens s'y retrouvent. Donc il faut dégager de la pensée, des raisons et réfléchir. À ce moment-là, on pourrait dire que ce qui est publié est véritablement publiable et comporte en lui, il s'adresse à toutes les intelligences parce qu'il est universel. Inversement, beaucoup de gens peut-être ne cherchant pas finalement à penser, à réfléchir ou à accéder à une pensée universelle, aujourd'hui font de la publication, mais uniquement sur des choses privées. Et donc on se retrouve à publier des photos privées, des humeurs privées, des choses. Enfin, ça c'est Facebook, par exemple. Et avec une confusion complète, parce que les gens le savent, mais sans le savoir, ils croient qu'il y a seulement quelques personnes qui vont être intéressées par ce qui est publié, mais en fait, le privé est devenu public à ce moment-là. Et donc, ce qui est très important aussi dans l'éducation de l'intelligence de nos jeunes, c'est de leur faire réfléchir et de leur faire critiquer différentes publications, qu'ils comprennent ce que ça veut dire que de publier. C'est un acte important quand on publie. Surtout que l'Internet n'oubliera jamais ce que vous avez publié. On a toujours une trace quelque part qu'on pourra exhumer. Donc, il faut vraiment insister sur cet aspect-là, à mon avis, dans l'éducation, et éduquer les jeunes à publier, à savoir rendre public une parole privée. Sinon, arrivera ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de confusion, à mon avis, non voulue. Bon, c'est une hypothèse, il y en a certains qui disent que l'idéologie de la transparence fait que tout le monde veut révéler tout ce qu'il est et tout ce qu'il dit pour accéder à la popularité, peut-être, mais je crois qu'il y a aussi le fait que les gens sont très naïfs sur le fait que d'écrire sur Internet, c'est rendre public. Ensuite, l'occasion, et alors là, c'est pour ressaisir de façon positive, Internet, de ce fait-là, pour les raisons que je viens de donner, est l'occasion d'une véritable recherche rationnelle, de se confronter à des opinions, c'est ma troisième partie ici, c'est véritablement un lieu de débat, et par conséquent, un lieu d'exercice de la raison et de la confrontation des raisons, qui, évidemment, apporte à celui qui s'y joue, qui s'y prête, un accroissement de sa vie intellectuelle et de sa vie spirituelle, si le sujet en est, qui sera très important. Et qu'auparavant, quelques livres pouvaient permettre d'apporter, mais là, de façon beaucoup plus diffuse, beaucoup plus générale, de se confronter à la pensée de tout le monde. Donc là, il y a un véritable accroissement intellectuel que peut permettre Internet si on accepte de descendre dans l'arène des débats rationnels. Parce qu'au début, vous vous rendrez bien compte que si vous commencez à aller sur un blog et que vos arguments sont très faibles et relèvent plus de l'humeur que de la raison, vous allez vite vous faire houspiller par ceux qui sont autour et vous allez vite apprendre à mieux calibrer vos pensées et un peu plus les approfondir. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Donc c'est la meilleure école que l'on puisse avoir. Le blog est une très bonne école, le tweet aussi, ça peut être une très bonne école, pour arriver à accéder petit à petit à une pensée rationnelle et développer une pensée personnelle. Alors, je voulais parler aussi, mais je ne sais pas si c'est très intéressant, c'est tous les risques sur Internet, évidemment, on les connaît tous, les arnaques commerciales, les pervers qui s'y promènent. Donc ça fait partie des risques, évidemment, sur Internet. Ils sont loin d'être anodins. Mais bon, tout le monde est un peu prévenu de ces risques-là. Faire attention à l'usurpation d'identité, la irréputation, enfin bon, bref, tous ces aspects-là, je ne vais pas les développer. Alors, En conclusion de cette partie sur les enjeux, je crois que nous sommes condamnés par Internet à devenir intelligents. Je le crois vraiment. Voilà. Ou alors, on va devenir très bête. Alors, pour quelle raison ? Bah parce que, je crois que c'était Michel Cher qui disait ça, quand je regarde mon ordinateur, je vois ma tête, je suis comme Saint-Denis. C'est comme si je m'étais coupé la tête et qu'elle était devant moi. Il y a ma mémoire, il y a mon imagination, et il y a même mes pensées. Donc le tout, c'est d'arriver à essayer de récupérer ça. Mais c'est pas si mal de le voir en face, parce que ça permet déjà cette distance. Et vous savez que la réflexion, c'est toujours mettre à distance. Et le fait, c'est pour ça qu'il va falloir devenir très intelligent, c'est-à-dire qu'il va falloir voir ce qui est dedans, voir ce qui est mémorisé ou mémorisable, voir ce qui est pensé, et voir ce qu'on en pense. Donc c'est véritablement un exercice de réflexion que de fréquenter Internet, et que de rentrer dans ce débat, hein, qu'on appelle participatif, sur quel que soit le sujet, sur Internet. Donc, oui, Internet est une occasion de devenir très intelligent. Ou alors, on va être engourdi dans la distraction, parce qu'on passe de site en site, on ne maîtrise pas véritablement notre attention, c'est-à-dire qu'elle est comme atomisée en différents champs, et à ce moment-là, on perd du temps. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle un surfeur sur Internet. Ben, le surfeur, c'est celui qui reste toujours à la surface, hein, qui ne plonge ni ne regarde la montagne sur laquelle il surfe, et qui passe à côté de tout, finalement. Et c'est vrai qu'on peut être sur Internet à surfer, c'est-à-dire être dans une totale distraction, où finalement le seul plaisir que l'on a, c'est la rapidité, la vitesse et les sensations que l'on a immédiatement. Donc si on fait cet usage-là d'Internet, celui du surfeur, qui est une expression consacrée, à ce moment-là, oui, c'est peut-être certainement un outil débilitant. Enfin, en tous les cas, on perd son temps. Donc, il faut être, à mon avis, vigilant, à être un lecteur attentif qui s'arrête hein, sur un site, qui s'arrête sur un endroit, qui essaye d'en faire son miel, et qui essaye de développer, par la confrontation de cette pensée qu'il lit, eh ben, sa propre réflexion. Et qui ensuite la publie pour faire avancer le débat. Et ça, dans tous les sites, c'est possible de le faire. Alors je passe dans une troisième partie sur les enjeux désormais d'Internet sur les relations sociales entre les hommes. Internet, donc ça, là, on n'est plus sur les questions des réseaux sociaux, pas facile. Hein. Eh bien, c'est une nouvelle sphère. C'est ce que disait M. Plinkett, c'est exactement, c'est une nouvelle sphère qui s'ouvre, un autre niveau de relation, qui sont des relations virtuelles, hein, et qui fait partie désormais d'une autre socialité. Il y a celle du village, celle de la famille, alors bien sûr, il ne faut pas qu'elles vont se confronter, toutes celles-là. Il y a celle de l'école où l'on est, ou du travail dans lequel on est, puis désormais, il y a cette autre sphère, hein, un peu virtuelle, qui est celle que permettent les réseaux sociaux. Alors, ce qui est clair, c'est que Internet a entraîné une intensification des échanges. Les mails, hein, échanges de photos, échanges de vidéos, il est clair et net que la socialité, comme ça, de loin, en tous les cas, s'est accrue avec Internet. Hein, les mails, les publications sur les murs de Facebook, bref, tout ça permet d'entretenir, on pourrait dire, une communication avec un certain nombre de personnes. Donc une intensification. Mais cette intensification en volume de communication, on dit toujours qu'elle se paye par une baisse qualitative, finalement, de l'information livrée. Et on compare en disant qu'est-ce que vaut une appréciation sur un mur Facebook à côté d'une correspondance de Voltaire ou à Rousseau ou je ne sais quoi. Bon, en passant, à chaque fois qu'on écrit, on n'est pas comme Rousseau ou Voltaire. Et la correspondance épistolaire, qui parfois est très riche et aussi parfois très pauvre. Mais je crois qu'en plus, c'est se tromper que de croire que le mail ou les murs Facebook sont comparables à de la correspondance épistolaire. Je pense qu'en fait, c'est une autre forme de convivialité, de conversation assez badine, qu'on pourrait dire c'est un mode fatigue du langage, je reste en relation, en fait je dis rien, hein, c'est comme quand je dis allô, allô, ça ne veut rien dire allô, ça veut dire bon, bah, voilà, on reste en lien. Et c'est vrai que Facebook, c'est une manière de montrer qu'on est encore en lien, voilà, avec un certain nombre de personnes en disant des banalités plus ou moins intéressantes. Mais il ne faut pas demander plus, peut-être, à Facebook, ce n'est que ça. Alors, je vais revenir sur ce sujet. Autre chose, c'est qu'on voit l'émergence, bah justement dans les blogs, évidemment, et les blogs chrétiens et des blogs musulmans, les blogs de terroristes peut-être, je sais pas, je crois que eux, c'est peut-être plus délicat à faire. Mais il paraît qu'il y a des techniques, d'ailleurs, ils vont, j'avais appris ça, ils vont dans des sites où on voit des beaux dauphins qui plongent dans l'eau, et si on clique sur l'œil, on arrive dans un site terroriste. Donc ce sont des sites totalement cachés, et je savais pas qu'il y a, voilà, ce sont des sites qui, derrière, ça peut être, alors quelquefois même ils utilisent des sites pornographiques et tout ça, et celui qui connaît, il sait où cliquer pour rentrer dans le site terroriste ou le site un peu fondamentaliste qui est là pour exacerber quelques passions négatives. Bien. Alors, donc ça, c'est tous ces réseaux qui apparaissent, tous ces forums autour d'un point d'intérêt, hein, forum informatique, forum politique. D'ailleurs, ils ont beaucoup de difficultés, les politiques. Hein, leurs audiences sont très très faibles. Ça ne marche pas du tout. Hein. C'est très intéressant. Les sites religieux fonctionnent bien mieux. Donc c'est curieux. Bon, toujours est-il que voilà, et se créent de ce fait-là des nouvelles communautés virtuelles. Des nouvelles communautés virtuelles qui parfois sont très éphémères, c'est ce qu'on appelle les, je sais pas si vous avez entendu parler des flash mobs, donc c'est des mobilisations de flash qui font que à travers un site, on se donne rendez-vous quelque part pour un apéro géant par exemple, ce qui a fait trembler les préfectures et parce qu'on alors là on sait absolument pas combien de personnes il va y avoir. Et quelquefois évidemment ça prend des proportions assez incroyables et puis là c'est l'exercice de la réunion publique qui normalement est quand même assez cadré et là on insiste à des mouvements qui font un peu paniquer la sécurité publique et on a des choses comme ça ou alors les moments, je sais pas si vous avez vu, c'était un jeu sur internet, ce qu'on appelait les freeze, c'est-à-dire que les gens se réunissent, se donnaient rendez-vous à un endroit dans une ville et pendant 5 minutes ils restaient immobiles. Voilà, freeze. Ben, j'en ai vu un à Marseille. Je me suis demandé ce qui se passait parce que c'était tout près de la mairie. Je marche et d'un coup, je vois tout le monde s'arrêter, enfin autour de moi, comme congelé. Et on ne sait plus quoi faire. On se dit, est-ce que je vais dans le groupe ou... C'est assez curieux. Non, c'est. Je sais pas. C'est moi, ça m'a étonné la première fois que j'ai vu ça. Et en fait, c'est un jeu sur Internet, manifestement, dans des sites. On crée. Voilà, on se donne rendez-vous et on fait un grand moment de freeze comme ça. Puis après, chacun part où il veut. Voilà. C'est assez étonnant comme phénomène. Donc là, on est dans des communautés très éphémères où les membres ne se connaissent pas forcément hein, et se rencontrent d'ailleurs parfois jamais. Et voilà. Bon, après, il y a d'autres communautés, alors plus intéressées, comme Mythic, où normalement on doit trouver l'âme sœur pour ceux qui la cherchent, ou l'âme frère, qui quelquefois rassemble plus, paraît-il, à des supermarchés, et on est plus dans la consommation de personnes que véritablement dans une histoire d'amour très élégante. Enfin, de ce que j'avais lu d'un journaliste, je crois que c'est Raphaël Baquet qui avait écrit là-dessus et qui faisait une description catastrophique de ces sites-là. Bon, bref, pour aller vite, j'arrive enfin à Facebook. Alors, bon, Facebook, vous avez certainement entendu, enfin, mes prédécesseurs ont dû en parler, c'est 500 millions de membres depuis septembre. C'est ce qu'on pourrait appeler le triomphe de l'exitimité. Je vais être assez négatif sur Facebook. Mais quand j'y vais, puisque j'ai un profil Facebook, mais je suis assez frappé de ce qu'il y a sur Facebook. Parfois même assez, il y a des choses drôles, rigolotes, mais c'est globalement l'impression de perdre mon temps. Alors, mais bon, peut-être parce que j'ai des amis qui sont pas intéressants, hein, mais c'est mon expérience personnelle, mais. Alors, il y a donc 500 millions de personnes. C'est le triomphe de l'exitimité. Hein, c'est l'opposé de l'intimité. Là. Je mets à l'extérieur mon intimité. Est-ce que c'est un phénomène de mode? Je pense. Je ne crois pas que ça sera très pérenne. Hein, MySpace a connu un grand succès. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de fermer globalement parce qu'il n'y a plus personne qui y est. MSN flotte. Peut-être que Twitter va remplacer... Je sais pas, parce que c'est quand même assez différent, mais Facebook, mais bon, je crois que c'est un phénomène de mode, mais qui rencontre un succès tel qu'il nous dit quelque chose de très précis sur l'attente des internautes, évidemment. peut être aimé ou ne pas aimé, peu importe, c'est un fait. Et ce fait-là semble manifester, je vais vous faire une description que j'ai prise sur Internet et que je trouvais pas inintéressante. D'abord, Facebook permet à la fois un exhibitionnisme et à la fois un voyeurisme. Je m'exhibe et j'ai peut-être des gens qui vont venir me regarder. Sans y voir un côté négatif, enfin, négatif de ces deux termes-là, l'exhibition et le voyeurisme, chez Freud dans Métapsychologie, il dit que ce sont des pulsions fondamentales. Et si ça marche si bien et de façon si massive, c'est qu'on touche à l'homme dans des choses très rudimentaires chez l'homme, enfin, généralement. Donc je pense que c'est ce doublet, c'est cette ambivalence qui finalement assure le succès de Facebook. Il paraît en plus, bon, c'est un accès à la popularité, on peut devenir populaire, en tous les cas avec le nombre d'amis qu'on a. On dit que c'est un fantastique antidépresseur. Pourquoi ? Parce que mon profil, c'est pas moi, ça c'est sûr, c'est un avatar, hein, bien choisi. C'est, on pourrait dire, un soi-même customisé, hein, comme les voitures, que bien rutilant, avec des spoilers un peu sur les côtés. C'est un avatar qui a un intérêt énorme, c'est qu'il me renarcissise, c'est-à-dire que l'image que j'ai dans Facebook, enfin moi je dis ça parce que pour en avoir discuté avec pas mal d'élèves que j'ai eus, on sent que le soin qu'ils ont sur Facebook est un soin très esthétique et ils aimeraient bien s'y retrouver, enfin que ça soit leur véritable identité, c'est une façon d'apparaître, hein, véritablement, et ça renarcissise énormément. Ensuite, je suis aimé, j'ai des amis, je me sais épié, je me sais regardé. Par qui, je ne sais pas, mais ça, c'est tout le piment. Donc, c'est pour ça que je mets un soin énorme à bien customiser. Et ce qui est le plus important de manifester, et ça, c'est assez curieux, c'est que je fais la fête. Et toutes les photos que je mets en ligne, je mets en photo les fêtes où j'ai un sourire 16 dents, totalement ouvert, et où je m'amuse. Et toutes les photos sont comme ça. C'est-à-dire que je veux montrer aux autres que moi, je suis heureux. Voilà. Moi, je suis heureux et je fais la fête en permanence parce que j'ai plein d'amis. Et il y a quand même quelque chose comme ça qui est assez curieux dans Facebook quand je regarde les profils. Parce que principalement, les amis que j'ai ne sont pas forcément des amis. En fait, ce sont mes anciens élèves. C'était pour moi un moyen de garder la relation avec mes anciens élèves. Donc, j'ai pas mal d'amis de ce fait-là, mes anciens élèves, j'ai pas trop de mérite. Et je peux garder un contact. Et quand je vois leurs profils et les photos qui sont publiées, c'est la grande fête. Ils sont tous heureux. Alors quand on les voit, en fait, c'est pas le cas du tout, mais ce que l'on voit sur Facebook, c'est exactement l'inverse. Alors c'est mon expérience encore et tout ça pour dire que, alors il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est un moment, c'est une position très royale. On voit le lever, le coucher, puisque les fêtes du soir, les fêtes du matin, tout est mis comme pour le roi Louis XIV, et il y a une étiquette. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de assez étonnant, Facebook, pour ça. Tout est fait pour me renarcissiser, quoi. Et je crois que c'est un bon Prozac contre la solitude, contre l'isolement, contre le doute sur soi, et avec cette hypothèse que tout le monde s'intéresse véritablement à moi. Voilà. Je vais pas regarder de près qui vient voir mon profil, mais j'espère en tout cas qu'il y en a beaucoup. Donc certains disent que c'est le Prozac de l'anonymat. Voilà. C'est-à-dire c'est vraiment éviter l'anonymat, l'isolement. Ben, il y a Facebook. Là, j'existe. C'est curieux, parce que sur un blog, je mets n'importe quel profil, enfin surtout pas moi, mais quand je suis sur Facebook, alors là, je m'étale, et c'est parfois les mêmes. Hein. Bizarre, enfin, c'est comme ça. Alors, voilà pour Facebook, enfin, cette description un petit peu amusante, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des choses très profondes dans Facebook. Enfin, ça peut permettre aux parents, mais je crois que les parents sont, enfin les grands-parents, ça sont rarement connectés, de voir les photos de leurs petits-enfants, des choses comme ça. Ça peut permettre un partage. Mais enfin, il y avait d'autres moyens que Facebook. Donc, je ne sais pas si ça fonctionnera. Alors ensuite, ça pose un problème, évidemment, dans la relation sociale. C'est la question du Christ. C'est de qui es-tu le prochain, puisque évidemment Facebook, on est proche de tout le monde. En tous les cas, on fait en sorte que les autres soient proches de soi. Qui est mon prochain, finalement, ou qui se rapproche de moi. Et c'est vrai que c'est autant d'écrans à des relations généralement sincères et vraies. Alors, il y a des choses vraies qui se disent sur Facebook, des drames ou des choses comme ça qui peuvent parfois être dites. Mais je doute quand même que Facebook puisse être un moyen véritablement de se rapprocher ou de considérer un profil comme un prochain. Tellement je crois que ces profils-là finalement sont falsifiés. Donc je doute véritablement d'une évangélisation par Facebook. Très sceptique. Je préfère les anonymes. Je pense que c'est certainement plus fécond et plus profond que de perdre que d'aller sur Facebook et dire je suis un fan de Benoît XVI, je fais partie du groupe fan de Monseigneur, je ne sais pas quoi, 23 ou des choses comme ça. Bon, je suis pas sûr que c'est un effet pastoral extraordinaire. Alors, la question, évidemment, aussi, c'est que Internet, dans cette nouvelle socialité, elle mange d'autres socialités. C'est-à-dire que je vois les enfants sont parfois plus présents, enfin quand ils ont un certain âge, sur leur profil Facebook que sur leur relation entre frères et sœurs ou avec leurs parents. Et on voit bien qu'il y a des concurrences de socialité qui sont en train de se faire. Les élèves dans la cour sont avec leur truc et s'isolent souvent et discutent moins. Ou alors tout en discutant, ils répondent en même temps sur leur iPhone ou je ne sais quoi à la dernière information sur Facebook, hein. Donc, et de ce fait-là, la proximité devient assez curieuse. Les lointains deviennent les prochains et les prochains spatialement s'éloignent. Pourquoi pas, hein. On peut être très prochain, le prochain de quelqu'un qui est loin, c'est pas un problème. Mais il est vrai que quand même celui qui est là sur le bord de la route, c'est quand même celui dont je devrais être aussi le prochain. Donc là, ça n'exclut pas l'autre. Mais ce qui est difficile dans ces nouvelles dimensions sociales, c'est d'arriver à gérer tous ces paramètres, tous ces paramètres sociaux, toutes ces différentes dimensions de la socialité. Et il faut y être assez vigilant. Par exemple, moi, dans l'école que je dirige, j'ai décidé que les élèves n'avaient plus le droit d'avoir ni d'iPod Touch, ni de téléphone. Donc ils arrivent, ils posent le téléphone chez le surveillant, et à 5 heures, il leur est restitué. Parce qu'on n'a pas le droit de confisquer un téléphone, parce que les gens payent dessus. Donc, mais on a le droit, pendant une période. Et il y a plein de raisons à cette décision, hein. C'était pas pour faire le gendarme, mais les élèves quand même le disent que de ce fait-là, ils ont quand même beaucoup plus de relations entre eux, et ils le disent, le fait de ne plus avoir ce téléphone avec les SMS des parents, les SMS des amis qui arrivent, les insultes entre eux, entre les classes, pendant les heures de cours, des choses comme ça, qui arrivent, la crainte dans les vestiaires de filles qu'une copine s'amuse à prendre des photos qu'elle va mettre sur Facebook, enfin bon, je vous passe des détails de ce qui se passe, et tout ça... Moi je voulais avoir l'esprit tranquille, j'ai l'esprit tranquille et c'est passé un peu comme une lettre à la poste, hein. Donc avis aux éducateurs. Alors on dit que c'est l'école des fadas maintenant à Marseille, on est une école de fadas, ce que dit le collège public à côté, où ils n'ont pas le droit d'avoir de téléphone. Donc mes élèves s'en portent pas si mal et ils oublient parfois à 5 heures de reprendre le téléphone, pour vous dire à quel point, et ça s'est fait assez naturellement. Donc parce que les parents, s'ils veulent avoir leurs enfants, il y a un standard et on fait passer l'information. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors, voilà pour ces questions-là. Ensuite, j'en arrive au terme de mon propos qui a pour but de mettre un peu l'évolution que nous venons de connaître un peu en perspective. Alors, oui, je voulais réfléchir... Enfin, je voulais finir, j'ai oublié de vous dire ça. Qu'est-ce que c'est qu'être prochain ? Parce que c'est quand même la grande question... La grande question était là, parce que c'est quand même la pratique de la charité, elle est décrite de qui suis-je le prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? De qui suis-je le prochain, c'est sur qui vais-je faire tomber mon amour? C'est ça, être le prochain de quelqu'un, si je reprends bien le sens de cette parabole. Eh bien, oui, je peux mettre toute mon attention et tout mon amour en face d'un blogueur qui souffre. Et qui me témoigne de sa souffrance. Tout à fait. Ça peut être... c'est une route, une nouvelle route, hein, et on peut très bien sur cette route rencontrer être le bon samaritain de quelqu'un qui s'est fait abîmer dans la vie. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien être lucide, il faut bien vraiment être lucide sur le fait que l'attention que l'on porte à ses prochains lointains, quelquefois, est au détriment de nos prochains, évidemment. Il faut arriver à gérer cette nouvelle dimension. Et ça, c'est pas simple. C'est pas d'exclure l'une ou l'autre, hein. Je suis pas en train de dire ça. Alors, l'évolution est mise en perspective. Alors là, c'est un peu plus audacieux, parce que je vais essayer de faire un brossage un peu... de brosser un peu une évolution des processus d'hominisation, comment les hommes sont devenus, enfin, sont devenus de plus en plus hommes et comment les choses se sont passées. Alors, si je reprends, je prends trois phases, trois, quatre phases, enfin, il y en a une qui se coupe en deux. La première phase, c'est la civilisation de l'oral. Je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Enfin, en fait, c'est toujours la même histoire. Il y a quelqu'un qui parle, vous avez des oreilles, et entre-temps, il y a un cerveau qui stocke l'information, et cette information stockée, je l'émets et vous la recevez. Et vous la stockez, voilà. Pour l'instant, on fait ça, et je fais ça, comme dans la civilisation orale, je fais ça avec mon corps. Je parle, vous avez les oreilles, et puis, parce que j'ai stocké dans mon cerveau comme information et sur le papier, ben, vous est transmise. Ensuite, il y a un autre moyen. L'autre moyen, c'est je ne parle pas, j'écris, je vous donne le papier. D'ailleurs, il n'y a pas écrit dessus. Et à ce moment-là, c'est l'écrit. C'est un autre support. Internet, c'est un autre support. Un ordinateur qui stocke l'information et qui parle à un autre ordinateur. Et en fait, Internet, c'est finalement tout simplement un changement de support. Il y avait le support qui était le corps. Ensuite, on est passé à un autre support qui est le vélin, la peau, puisqu'on écrivait sur des peaux ou alors sur le papyrus, sur le papier. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau support qui n'est plus le papier et qui est des données numérisées qui sont envoyées à des ordinateurs. Voilà. En fait, on a ces trois grandes périodes. Alors, je ne sais pas si vous voyez la dimension, parce que ce que je suis en train de dire comme ça, c'est vu très simplement. Mais enfin, quand on voit les répercussions que ça a, c'est gigantesque. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail. Donc, finalement, on est en train de connaître un changement du couplage entre le stock et l'information. C'est tout. C'est que ça. Alors, avant, il y avait la civilisation orale, celle dont le roi d'Égypte était très épris, manifestement. C'était les aèdes grecs qui retenaient l'ensemble de l'Odyssée et l'Iliade, ce qu'on suppose, et qui le chantaient le soir, finalement, au coin du feu, dans les différents villages. Et on retenait tout. Voilà, on retenait tout. Il n'y avait pas d'autre support, donc on retenait. Ensuite est arrivée l'écriture. Alors l'écriture, ça entraînait quoi ? Bah, la comptabilité, on a commencé à compter les grains qui étaient stockés. Ça a entraîné la monnaie, puisqu'on a tapé une monnaie avec une effigie. Hein, parce que l'écriture, ça peut être de l'alphabet, mais ça peut être aussi des figures. Donc ça a entraîné la monnaie. L'écriture, ça a permis le développement de la géométrie. L'écriture, ça a permis l'écriture du droit, hein, chez les Romains. Et l'écriture, ça a permis la Bible. Et évidemment, les civilisations ont profondément été transformées par l'apparition de l'écrit. L'imprimerie de Gutenberg, elle a permis à tous les écrits d'avoir une diffusion massive. Il n'y a pas de réforme protestante sans Gutenberg. Hein. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas accès à l'écriture. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc les deux ont fonctionné ensemble. Il n'y a pas de possibilité de... Sans l'imprimerie, il n'y a pas de journaux. Il n'y a pas de débat, on pourrait dire, il n'y a pas de débat démocratique aussi intense que ceux qu'on a connus au 19e, au 20e, sans l'imprimerie. Donc certains disent qu'il n'y a pas de débat démocratique dans nos sociétés sans l'imprimerie, sans les journaux. Ou alors, il faut faire des petites unités où il y en a un qui parle sur l'agora, c'est-à-dire qu'en gros, d'un coup d'œil, comme disait Aristote, je peux voir les 40 000 citoyens et m'adresser à eux. Enfin, nous, dans nos nations, on est à 40 millions de citoyens, ce qui est impossible. Donc, il faut d'autres médias. Donc, l'imprimerie a permis cela. Il y a certainement eu des conséquences politiques, enfin, a eu des conséquences politiques assez fortes. Et je vous dis, la réforme et le schisme protestant a besoin de cet outil technique que fut l'imprimerie. Et là, on est en train de changer encore de support. Qu'est-ce qui se passe ? Bah, y a plus de frontières. Tout le monde est connecté. L'ensemble de l'humanité est comme rassemblé, hein, par ces moyens-là. Donc on arrive certainement à... Je peux pas être le prophète de ce qui... C'est impossible de savoir ce qui va se passer. Mais si on regarde comment ça s'est passé auparavant, ce qu'on est en train, depuis à peine 20 ans, de connaître, et va avoir des répercussions politiques certainement gigantesques, des répercussions économiques et de tous ordres gigantesques. Gigantesques. D'ailleurs, en 20 ans, c'est déjà impressionnant les choses que Internet a transformées et changées. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est dans les enjeux anthropologiques, évidemment, ils sont très importants. C'est véritablement changer l'éducation, changer l'instruction, changer la manière de pratiquer, mettre l'accent davantage sur d'autres capacités intellectuelles qu'auparavant, et qui sont plus adaptés à cet outil d'Internet, on est dans un changement de civilisation. Je le crois vraiment. C'est pas un petit changement que l'on connaît là. C'est un énorme changement. Ensuite, il y a cette apparition nouvelle du virtuel, donc une dimension de l'être qu'on ignorait. Alors, on la connaissait un peu avec la voix au téléphone, qui est une voix virtuelle, ou l'image à la télévision qui était virtuelle, mais maintenant, avec la numérisation, tout est virtualisable. Et notre corps, dans pas longtemps, va être virtualisable, et on va apparaître de façon holographique en sortant d'un téléphone. Je crois que c'est les perspectives vers lesquelles on a, c'est-à-dire faire des réunions, des téléconférences, où vous seriez totalement holographique. Voilà. Et où moi, je serais holographique. C'est-à-dire essayer de faire en sorte de plus en plus que la présence soit réelle, que ça soit encore plus réel, que le virtuel essaye de singer le réel au maximum. Je crois que c'est le processus vers lequel ira la virtualisation. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est l'abolition de l'espace et des distances, puisque tout ça circule à la vitesse de la lumière. Avant, on disait, en latin, on disait « hic et nunc », « ici et maintenant ». Internet a permis d'inventer le nunc, le maintenant immédiat, sans le ici. C'est, on ne sait pas où est mon adresse mail. Par exemple, je me connecte, mais elle est où est mon adresse? Avant, on sait physiquement par le cadastre où est ma boîte aux lettres. Ça, aujourd'hui, mon adresse mail, d'abord, j'en ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'ai mes numéros de téléphone qui sont aussi des adresses, et je suis totalement déspatialisé et j'existe sur un profil Facebook, j'existe sur un tweet, j'existe sur différents lieux, avec peut-être des gens qui sont en train de se connecter, je ne le sais même pas. Mais ils sont déjà en train d'échanger avec moi. Donc il y a une démultiplication spatiale, une espèce d'ubiquité qui se crée, et qui est quand même assez fascinante. Qui est quand même très fascinante. La mobilité de l'information, grâce au portable, je suis joignable à n'importe quel moment. Et j'ai dépassé. Bon. Une chose, c'est que Internet et l'informatique ont une cadence technique qui est très forte, et ça, c'est très difficile pour l'homme de rentrer dans cette cadence technique. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'était un peu une critique là, mais je vais être très rapide, une critique qui est un peu de fond sur le fait que le drame dans la technique, c'est qu'elle nous éloigne toujours. Alors, c'est très heideggerien ce que je dis, mais elle nous éloigne toujours du réel et du monde réel. Elle nous le fait voir uniquement sous un certain aspect, qui est l'aspect utilitaire. Et même s'il y a beaucoup de choses positives dans Internet, il ne faut pas oublier que la technique accroît de façon démesurée ma puissance. C'est ça le sens de la technique, c'est augmenter ma puissance. Le levier, c'était déjà le premier outil technique qui augmente mon pouvoir, ma puissance. Et là, avec Internet, l'augmentation a pris des conséquences énormes. Et l'autre aspect de la technique, c'est de me faire regarder l'être, non plus dans sa réalité, mais beaucoup plus finalement dans le rapport que j'entretiens avec lui. Voilà, je suis désolé d'avoir si mal expliqué le terme de cette conférence. Et voilà, j'espère avoir été pertinent et avoir un peu permis que le débat soit plus profond. Merci.
Les applaudissements répondent à vos craintes.
Oui, mais c'est...
En les balayant. En tout cas, un très très grand merci pour... vous nous avez donné beaucoup à réfléchir, beaucoup à penser, et notamment dans cette finale, en prenant un peu la mesure de l'ampleur des changements dont nous sommes actuellement les témoins, avec la difficulté, effectivement, de tirer les conséquences, de faire déjà des bilans. Il y a des choses qu'on est capable d'apprécier, déjà. Je vous avais écouté de fait il y a 5 ans, oui, à Aix-en-Provence, avec beaucoup de joie. Mm-hmm. Et ben, de fait, depuis cette conférence, mm-hmm, tant de choses déjà ont évolué. Des conclusions qui semblaient être déjà qu'on pouvait poser, bon, maintenant sont à relativiser.
Oui. On va retirer.
Enfin, voilà, je crois qu'on est un petit peu au cœur du débat. Un moyen technique, qu'est-ce que l'homme en fait ? Je crois que ça nous prépare bien à la conférence de demain, où nous aurons des éléments de discernement, de réflexion et de discernement pour un usage bon pour l'homme, bon pour l'homme, pour son avenir, pour sa construction, un bon usage d'Internet. Déjà un très grand merci. Alors, merci. Nous ne vous quittons pas, puisque nous allons vous retrouver ce soir pour
la table ronde
avec Monsieur de Plainquette.